Le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 8 novembre 2024. Dans un mémoire déposé cette semaine, la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, fait part de ses vives préoccupations quant au risque que poserait l'adoption du projet de loi 74 relatif aux étudiants étrangers. D'une part, la CSQ constate que dans la dernière décennie, ce sont les universités francophones qui connaissent la plus forte croissance des effectifs d'étudiants internationaux. D'autre part, elle rappelle que la contribution des étudiantes et étudiants internationaux n'est pas que financière ou économique. Leur présence en région est un facteur d'enrichissement, notamment pour les milieux culturels et communautaires. La CSQ recommande de suspendre le projet de loi 74 et de mettre en place des mesures soutenant le recrutement international de provenance francophone. Deux nouvelles installations du Centre de la petite enfance Mabel Grenouille ont été inaugurées hier dans l'arrondissement Haut-Saint-Charles de la Ville de Québec. Ainsi, 80 nouvelles places dans chacune de ces installations, dont 15 places pour les enfants de moins de 18 mois, seront disponibles pour les familles de la région. En outre, 85 places non subventionnées seront converties en places subventionnées, dont 38 à la garderie Miguenis Petite Plume, Centre d'amitié autochtone de Québec. Avec la conversion de ces 38 places, la totalité des installations Premières Nations et Inuit seront subventionnées. L'École de musique L'Arc-Muse fête demain ses 40 ans. Pour l'occasion, elle ouvre les portes de son univers musical à compter de midi. Ce sera l'occasion de découvrir leur salle de concert sous le signe de la musique du midi au soir. Professeurs et élèves, anciens et nouveaux, vont se produire dans une formule contribution volontaire. L'Arc-Muse compte ainsi recueillir des dons pour son grand projet, la création d'un fonds de dotation. Midi classique, cocktail jazz et concert pop attendent les personnes qui franchiront l'entrée de l'Arc-Muse, située au 151A rue Saint-François-Est. Le Forum Jeunesse Afro-Québécois présente demain une soirée festive de célébration des personnes queer racisées. Cette activité est ouverte à tout le monde et fait partie du projet Initiation à l'engagement citoyen et au leadership, YEL, qui vise à favoriser l'inclusion, la visibilité des personnes queer racisées dans la ville de Québec et à lutter contre l'isolement qu'ils, elles, YEL peuvent vivre. L'événement a lieu au café Tintico, au 198 rue Hermine, de 20h à 22h30. Le programme accélérateur de la transition écologique s'est vu octroyer une subvention de 2,5 millions de dollars de la part de la Ville de Québec et de Desjardins. Ce programme s'adresse aux organismes à but non lucratif, aux coopératives et aux établissements d'enseignement. Les projets doivent être soumis d'ici le 3 février 2025. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Nul homme n'a jamais suivi son génie au point que celui-ci l'eût mené dans l'erreur. Quand bien même ce régime entraînerait une faiblesse corporelle, personne ne pourrait pour autant tenir ses conséquences pour regrettables, car il participerait d'une vie conforme à des principes plus hauts. Si le jour et la nuit sont tels que vous les accueillez en joie, et si la vie émet une fragrance semblable à celle des fleurs et des herbes odorantes, et si la vie se fait plus plastique, plus stellaire, plus immortelle, là est votre succès. La nature tout entière est votre récompense, et vous savez, un temps, matière à vous bénir vous-même. Les gains les plus grands, les valeurs les plus hautes sont les plus hors de portée de notre appréciation. Nous pouvons aisément douter de leur existence. Nous les oublions vite, mais ces choses constituent la réalité la plus haute. Il se pourrait que les faits les plus ahurissants et les plus réels ne soient jamais communiqués à l'homme par l'homme. La véritable récolte de ma vie quotidienne est d'une certaine manière aussi intangible et indescriptible que les couleurs de l'aube et les teintes du soir. C'est un peu de poussière d'étoiles retenue dans ma paume, un fragment d'arc-en-ciel attrapé à pleine main. Bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va parler de transition avec Tommy Bureau, qui est de l'organisme c'est Transition Bonjour. Québec, je pense. Hein?
Bonjour.
Oui, c'est ça. C'est.
Je me suis déjà impliqué un tout petit peu à Transition Québec, mais non, moi, je travaille pour le mouvement ACT, donc Action Collective en Transition Environnementale et Sociale.
C'est vrai.
J'ai aussi animé l'émission Le Monde en Transition à CKIA.
C'est que on va parler de transition aujourd'hui, mais avant, j'ai quelques petites annonces, nouvelles, lectures, puis on va faire notre entrevue après ça. Dans les annonces, je vous informe ou je vous rappelle que lundi prochain, au local des Amis de la Terre, au centre Frédéric Bac, on aura un cercle de discussion avec Luc Gosselin sur le revenu de base. Alors, si vous êtes bienvenus, c'est toujours agréable de se rencontrer en cercle comme ça, discuter, puis dans les soirées grises du mois de novembre, ça fait du bien de se retrouver ensemble, puis de jaser d'un sujet qui est quand même, c'est surprenant, j'en ai appris beaucoup de Luc Gosselin sur le revenu de base, semblerait qu'au Québec, on est dans les endroits dans le monde les plus avancés de ce côté-là. Donc, je vous invite à notre cercle de discussion lundi prochain au local des Amis de la Terre. En fait, c'est pas au local des Amis de la Terre, c'est dans le centre Frédéric Bac, à la salle Michel Jourdan. Ensuite, le 14 novembre, qui est jeudi de la semaine prochaine, on aura un café philo au café Le Motas. Alors là aussi, tout le monde est bienvenu. Et pour ceux qui ne sont jamais venus à Café Philo, ben c'est encore une belle activité qui est conviviale. On va discuter d'un sujet qui sera décidé par les participants, par les gens qui sont là. On va voter sur le sujet sur lequel on va discuter. Donc, c'est jeudi le 14 novembre. Dans mes lectures de cette semaine, quelques articles dans Le Devoir, évidemment, l'incontournable élection américaine. Et dans Le Devoir de jeudi, on dit « Le retour de Trump menace-t-il le climat? Après avoir nié la réalité du réchauffement climatique et promis de stimuler la production d'énergie fossile, de démanteler plusieurs normes environnementales en sol américain, de quitter l'accord de Paris, le président désigné Donald Trump risque-t-il de nuire au climat de la planète au lendemain de sa victoire? Plusieurs s'inquiètent pour la suite des choses. » Ce retrait annoncé aura des répercussions bien réelles, selon Alexandre Lillo, professeur au département de sciences juridiques de l'UQAM et spécialiste des enjeux climatiques. Cette décision va fragiliser toutes les négociations climatiques, et ce, dès la conférence des Nations unies, COP29, qui commence la semaine prochaine. Alors, on va suivre ça, les résultats de la COP la semaine prochaine. Et M. Lillo dit aussi redouter les impacts sur le financement de l'action climatique mondiale. Voilà. Il y a Yvan Clich qui dit un peu plus loin, c'est dans l'article du Devoir de jeudi dernier. Estime lui aussi que même si le président Trump a qualifié le pétrole d'or liquide dans son discours de victoire, la croissance des énergies renouvelables va demeurer très forte, y compris en sol américain. En ce sens, il souligne que les effets positifs de l'Inflation Reduction Act, politique qui stimule la transition énergétique et donc la lutte contre la crise climatique, se font clairement sentir dans les États républicains. Le Texas, par exemple, historiquement associé aux énergies fossiles, est devenu le premier État producteur d'énergie renouvelable au pays, avec notamment plus du quart de toute la production éolienne. Et face à des pays comme la Chine, qui dominent le secteur prometteur des énergies censées remplacer celles qui conduisent l'humanité vers le naufrage climatique, les entreprises américaines n'en voudront pas demeurer en reste. Il y a quand même de l'espoir. Article aussi intéressant dans Le Devoir d'aujourd'hui, qui parle des enjeux climatiques au niveau de la communication des enjeux climatiques. Il y a eu un sondage qui est organisé là, par la firme Léger, si je ne me trompe pas. Parler des enjeux climatiques autour de soi, un terreau à idées. Vous voulez rehausser d'un cran notre lutte collective contre les changements climatiques? Informez-vous, puis parlez-en autour de vous. En fait, l'article, le sondage, ce qu'il dit, c'est que pour faire changer l'opinion des gens face au changement climatique, faut que ça soit des gens qui sont autour d'eux. Alors, leurs amis, ça peut être un commerçant, la coiffeuse, etc. Ces gens-là, quand vous parlez à votre entourage, vous avez plus d'impact qu'un expert en écologie qui, dans le fond, les gens ne l'écoutent pas vraiment ou sont moins inspirés. Alors, les experts continuent cependant à inspirer confiance, mais c'est pas autant que les gens qui sont près de nous. Donc, il faut parler aux gens autour de nous pour faire évoluer les idées. Autre article intéressant dans le Devoir, c'était dans le Devoir de mercredi 6 novembre. Les maisons de fonds de cour arrivent en ville. Des municipalités misent sur la construction de logements adjacents aux résidences principales pour contrer la crise de l'habitation. On sait que la crise de l'habitation, c'est un gros problème actuellement. Puis de plus en plus, les gens ont recours à des mini-maisons dans leur cour. Puis c'est un mouvement qui est en croissance. Puis il y a plusieurs municipalités qui ont modifié la réglementation municipale pour les permettre. Depuis deux ans, les villes qui donnent le feu vert à ce type d'habitation se multiplient. Gatineau, Laval, Longueuil, Trois-Rivières, Nicolette, Granby, Victoriaville, Rouyn-Noranda, Rivière-Rouge et d'autres municipalités ont autorisé les UHA ou envisagent de le faire. Alors, c'est un article intéressant. Je trouve que c'est peut-être pas la solution pour tout le monde, mais ça en est une des solutions, densifier les villes en utilisant les cours des maisons, qui sont des terrains disponibles. Ça va justement faire partie de la transition, donc on va parler tantôt. Dans les autres lectures que j'ai, le nouveau Philosophie Magazine qui vient d'arriver en kiosque, et il y a toute une section, le thème de ce numéro de Philosophie Magazine, Philosophie numéro 183, octobre 2024, c'est comment trouver le bon rythme. Et c'est notre rapport au temps, notre rapport notre rythme est souvent, on est une espèce de course, on est toujours décentré. Puis, c'est une des réflexions de plusieurs philosophes sur comment trouver le bon rythme. Et justement, la semaine prochaine, j'aurai comme invité Christine Lemaire qui a écrit un livre sur le temps et les différentes sortes de temps. Donc, on va pouvoir peut-être approfondir cette thématique-là qui est dans le Philosophie Magazine qui vient d'arriver en kiosque. Alors, on prend une petite pause musicale, puis on va parler de transition avec M. Bureau.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself.
I thought I was someone else, someone good. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
C'était la pièce Perfect Day de l'album de Lou Reed, l'album Transformer. Et petit rappel que c'est des pièces musicales, la bande sonore du film, justement, Perfect Days, que je vous ai souvent parlé, qui est un beau film sur la simplicité volontaire que je vous recommande, que j'ai trouvé en ligne. Alors voilà. Bonjour Tommy.
Bonjour, bonjour. Bonjour M. Delorme.
L'organisme encore que tu...
C'est le mouvement ACT, Action collective en transition environnementale et sociale.
D'accord. Puis, ben c'est ça, aujourd'hui, on va parler de transition. Nous autres, l'émission, on parle beaucoup, c'est de simplicité volontaire, c'est plus une pratique individuelle, la philosophie comme mode de vie individuel. Mais la thématique de cette année, c'est sur les liens. Alors, on s'intéresse aux liens, puis le mouvement, le lien avec la simplicité volontaire, c'est que là, on parle d'action collective avec les mouvements de transition. Puis, on parle aussi de, justement, quand on s'implique dans des initiatives de transition, on crée des liens avec d'autres personnes, qui est bien important. Alors, peux-tu nous parler un peu de vous autres, votre implication dans cette... dans ce courant-là, qui est la transition, là?
Ben oui, dans le fond, le mouvement pour lequel je travaille, ça existe depuis le début des années 90. Ça a été fondé en 1993. À l'époque, ça s'appelait le Réseau des établissements verts ou même des écoles vertes Brundtland. C'est né suite au rapport Brundtland, en fait, le premier rapport sur le développement durable. Je pense que c'est en 1989 que le rapport avait été écrit, soumis par Madame Gro Harlem Brundtland, une politicienne de Norvège. Puis, ça avait éveillé beaucoup de choses, entre autres chez le personnel de l'éducation des écoles du Québec, où on avait beaucoup d'enseignants, d'enseignantes, beaucoup à l'époque, qui se disaient, on aimerait faire de l'éducation relative aux enjeux environnementaux dans nos classes. Puis c'est pas évident, le programme de formation de l'école québécoise à l'époque le permettait pas. C'était pas des notions qui étaient proposées, en fait. On commençait là, à parler d'environnement à l'époque. Bon, il y avait eu toute la question des pluies acides dont on avait parlé abondamment, mais on commençait à réaliser les impacts de nos modes de vie sur notre environnement, puis on commençait à réaliser que les ressources naturelles n'étaient pas illimitées. Ces enseignants, ces enseignantes-là avaient fait appel à la centrale des syndicats du Québec pour laquelle je travaille en disant « on aimerait ça pouvoir avoir de l'aide pour parler de ces enjeux-là avec les jeunes, autant dans les écoles primaires que secondaires. Et la centrale avait dit « Parfait, on embarque, on va vous donner un coup de main, on va financer un réseau d'écoles qui vont travailler ensemble pour travailler sur ces enjeux-là, pour faire de l'éducation, surtout au début, sur ces enjeux-là. » Sur quatre valeurs, en fait, parce que ce qu'on a réalisé assez tôt, j'étais pas là, moi, personnellement, à l'époque, j'étais moi-même au primaire, mais ce que les fondateurs, les fondatrices du mouvement ont réalisé assez tôt, c'est qu'on pouvait pas juste parler d'environnement, même si c'était ça peut-être qui était mis de l'avant là, par le rapport Brundtland, mais on avait quatre valeurs qui, selon nous, s'entrecoupaient, étaient liées les unes aux autres. Donc, c'est un mouvement qui est basé sur des valeurs d'écologie, de démocratie, de solidarité et de paix. Et donc, oui, l'éducation relative à l'environnement, beaucoup au début, mais toujours entrecoupée, toujours aussi en harmonie avec ces autres valeurs-là. Et le mouvement existe toujours aujourd'hui, donc 31 ans plus tard, un réseau en ce moment d'environ 800 écoles partout au Québec. Je dis écoles, mais établissements, principalement en éducation. On a aussi, par exemple, des centres de la petite enfance, des cégeps, des universités qui se mobilisent. Maintenant, on parlait avant beaucoup plus d'éducation relative à l'environnement, mais maintenant, on passe beaucoup plus à l'acte, justement. De là, le mouvement ACT, on a changé de nom, entre autres, pour ça. Parce que dans les établissements, maintenant, on ne fait plus simplement réfléchir, se questionner, sensibiliser, éduquer. Mais là, on le sent autant du côté du personnel, des établissements que des jeunes. On veut passer à l'action. Donc, il y a beaucoup de gestes concrets qui sont posés au jour le jour pour faire la transition vers un monde qui soit plus durable. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on a changé de nom pour s'appeler maintenant le mouvement ACT.
Puis, en fin de compte, est-ce que tu as des exemples d'initiatives de transition qui ont émergé de ça, là, finalement?
Bien, si, effectivement, j'en ai des tonnes. Si on regarde les projets les plus populaires, parce que, bon, là, nous, moi, en travaillant au Mouvement ACT, j'ai la chance de voir un peu ce qui se passe dans les différents établissements qui se mobilisent. Les projets les plus populaires qu'on voit en ce moment, c'est vraiment des projets... je dirais de jardinage, par exemple, où on va créer des jardins collectifs, communautaires, à même les terrains de l'école ou à proximité. Donc là, il y a un aspect pédagogique super important parce qu'évidemment, c'est pas tous les jeunes qui sont en contact avec la nature qui comprennent d'où vient la nourriture qu'ils consomment. Ça, c'est un type de projet qu'on voit beaucoup. Des classes extérieures aussi pour permettre aux enfants d'apprendre à même la nature. On a aussi beaucoup, beaucoup de projets de gestion des matières résiduelles pour réduire son empreinte écologique. Donc, par exemple, des cafétérias zéro déchet, des projets de compostage. C'est pas si simple dans toutes les écoles du Québec parce que c'est pas toutes les municipalités qui soutiennent les écoles qui veulent composter. Donc, du côté écologique, là, ça, c'est vraiment dans nos projets les plus populaires. Puis, parallèlement à ça, on a aussi beaucoup de projets liés au vivre ensemble. C'est drôle, cette année, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui me disaient « Nous, on veut faire un projet pour lutter contre le vandalisme dans l'école, la lutte contre le racisme, l'homophobie. » C'est beaucoup des choses qu'on voit, des jeunes qui sont conscients, conscientes qu'autour d'eux, c'est pas tout le monde qui a le même traitement, qui a la même chance, qui a les mêmes privilèges, puis qui veulent aider les autres aussi à être bien, à être intégrés. On voit beaucoup de ce type de projet-là en ce moment.
Puis l'organisme, en fin de compte, c'est qu'est-ce qui fait... concrètement là, par rapport à ça, est-ce que c'est des formations ou des...
Oui, bien, devenir membre du réseau, d'abord, c'est prendre l'engagement de poser des gestes pour la transition environnementale et sociale. Et ensuite, effectivement, on reçoit des services. Donc, moi, je travaille au secrétariat du mouvement ACT. On est 5 personnes à travailler au secrétariat. Et les services qu'on leur offre, effectivement, il y a des mini-colloques qu'on organise 2 fois par année pour nos membres qui se réunissent d'un peu partout au Québec en personne, 2 jours, où on aura de la formation, des ateliers, des moments d'échange. D'ailleurs, notre prochain événement est la semaine prochaine, les 14 et 15 novembre, pas loin d'ici, à la station touristique du Chesnay. On leur offre aussi l'occasion de se jumeler entre écoles. Lorsqu'il y a des établissements, par exemple, qui veulent réaliser un projet, ben on peut les jumeler avec un autre établissement qui l'a déjà fait pour générer de l'entraide. On a des plateformes en ligne qui permettent à nos établissements de trouver des outils qui vont les aider à faire la transition. Par exemple, on a une certification qui s'appelle la certification ACT en collaboration avec Éco-École, qui est une plateforme en ligne sur laquelle on va se connecter, puis on peut trouver une tonne d'activités qu'on peut faire, de projets qu'on peut faire dans notre établissement pour réduire notre empreinte écologique. Puis quand on les a réalisés, ben on obtient à la fin de l'année scolaire une certification, donc une belle reconnaissance. On offre aussi de la visibilité à nos membres, on fait beaucoup de promotion de ce qu'ils font pour encourager d'autres établissements à faire la même chose.
Fait que c'est, en gros, vos membres, c'est des professeurs, j'imagine?
On a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes. On a aussi beaucoup de personnel de soutien, de personnel professionnel. Je ne sais pas si vous connaissez les anciens AFSEC qui s'appellent maintenant les ADPEC. C'était les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Maintenant, en fait, ça a toujours été. Puis maintenant, ils s'appellent les ADPEC pour animateurs de développement personnel et d'engagement communautaire. Puis c'est vraiment des piliers dans beaucoup des établissements parce que leur rôle, justement, c'est d'aider les jeunes qui veulent mettre en place un projet, qui veulent que ça soit du développement personnel ou que ça soit justement de l'engagement communautaire. Puis ils ont un rôle qui leur permet, en dehors des heures de classe ou même pendant les heures de classe, de mobiliser des jeunes, de travailler avec eux autres sur des projets concrets. Fait que c'est des grands alliés pour le mouvement ACT.
Puis... est-ce que aussi vous avez, est-ce que ça se limite aux écoles, votre implication, ou vous avez des actions qui sont plus larges, là, qui touchent, je sais pas, développer des initiatives de transition pour dans le communautaire, par exemple?
Bien, en fait, nous, on travaille avec les établissements membres. Donc, principalement, les membres du mouvement ACT, c'est effectivement le milieu de l'éducation, de la petite enfance à l'université, la plupart des écoles primaires et secondaires. Par contre, vous faites bien de poser les questions. On a aussi certains organismes communautaires comme PESH qui sont membres. C'est pas notre majeur parce que nous, étant affiliés à la Centrale des syndicats du Québec, la plupart de nos membres sont dans le milieu de l'éducation. Donc, nos outils sont offerts à nos membres, mais on a quelques organismes communautaires ici et là, oui.
OK, parce que je sais pas si... C'est parce qu'il y a tout un courant là, qui s'appelle la transition, là, qui était parti en Angleterre là, par Rob Hopkins, là, qui est le mouvement de la transition. On entend moins parler, mais l'idée est demeurée, là, c'est les initiatives de transition... je sais, entre autres, qu'il y a eu un livre « Demain, le Québec » par oui. la Fondation David Suzuki, ouais. qui, en fin de compte, c'était encourageant même, présentait une panoplie d'initiatives de transition au Québec. Puis là, ce qu'il voulait faire voir, c'est que faut pas trop être découragé non plus de ce qui se passe au Québec. En tout cas, on est très dynamique.
Ben oui, j'ai eu l'occasion de lire ce livre-là, puis effectivement, il y a des initiatives partout. Là, on a beaucoup avec le Front commun pour la transition énergétique en ce moment, un mouvement à la grandeur du Québec avec les collectivités zen aussi, qui sont des espèces de lieux de concertation, de travail en collaboration pour faire la transition dans les régions qui participent au projet. Nous autres, ce qui est intéressant en plus de ça, bon, c'est ça justement, c'est qu'on va réseauter, on crée un mouvement avec tous ces établissements-là qui posent des gestes chacun chez eux, mais qui, grâce au mouvement, sentent qu'ils font partie d'un ensemble. Puis en plus de ça, ben parce que je travaille pour la Centrale des syndicats du Québec, on a aussi des revendications collectives, des actions politiques qui sont pas nécessairement posées par les établissements eux-mêmes, mais par la Centrale elle-même, qui donc à la fois soutient les actions sur le terrain, mais qui fait aussi des revendications à l'échelle politique pour dire, ben là, oui, on a du monde qui travaille fort sur le terrain pour faire la transition chez eux, mais on a aussi besoin de politiques publiques qui leur facilitent la vie, qui vont dans le même sens que nous. Donc ça, c'est super important aussi. Puis en étant une centrale syndicale, ça nous permet de faire les deux.
Parce que si vous êtes dans les écoles, à quelque part, ça veut dire que le ministère vous soutient, là, ou en tout cas est d'accord avec ce que vous faites. Là.
Bien, on a des collaborations avec le ministère de l'Éducation. Par contre, t'sais, on travaille beaucoup dans, je dirais, la zone de l'autonomie professionnelle de nos membres. Parce que, tu sais, on a le programme de formation de l'École québécoise qui dicte ce qui doit être enseigné, évidemment, bon, pour l'ensemble des niveaux du primaire, du secondaire. Puis nos membres ont une certaine liberté là-dedans et c'est là qu'ils vont souvent inclure, justement, soit des projets ou de l'éducation relative à l'environnement, la démocratie, la citoyenneté, tout ça. Donc, c'est beaucoup dans ces zones-là qu'ils vont travailler. Puis on va se dire la vérité, il y en a beaucoup là-dedans qu'ils font sur leur temps et avec leurs propres moyens. Donc oui, le ministère de l'Éducation sait qu'on existe, on a des communications avec eux, mais il faut savoir que ce mouvement-là est soutenu principalement par nos membres qui eux-mêmes se mobilisent puis qui manquent de moyens pour le faire. Donc si le ministère de l'Éducation, ou plutôt le gouvernement, était vraiment 100% derrière nous, ça nous donnerait beaucoup plus de moyens, mais malheureusement, les moyens manquent et on aimerait ça avoir davantage encore de collaboration.
On va prendre une petite pause musicale. Mm-hmm. Puis on poursuit notre conversation au retour. ...
Florida, tan lontan dal suo paese, la fiamma sposa giù, l'induman la chita lì, alla fa il soldato setani, dopo setani ne arriva lì, ad ai peri in talla porta della Fiorenza venì dormì, sua mamma dalla finestra della Fiorenza e papì, la Fiorenza le sta rubeia dal bel moro sarà sì, campe nella mia spadina fu nel pugnal d'Arzè, in vaga gire lo mondo della Fiorenza la troverè,
bel galantare andà la guerra per setanna turna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì,
la trovai tre lavandere che lavavo so fardel, dime un po' voi lavandere come se c'ama sto castel, sto castel alle del bel moro, del bel moro sarà sì, e setani che Fiorenza e setani caiedri,
nel galantare andà la guerra per setanna turna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì,
e il bel moro alla finestra da lontan la vis venì, che i densa bella Fiorenza dai un feie festa prunte la tavola, fei del pane e del buon vin, di a disnebbe la Fiorenza, di a disnecuma per me. Quan le stai mita la tavola, pie tumba l'anilin dal dì, culanelì calve tumba ve, ale culca spusami,
bel galantale andà la guerra per setanna turna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì, bel galantale andà la guerra per setanna turna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì, nel galantale andà la guerra per setanna turna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì.
Alors, on est de retour avec Tommy Bureau du mouvement ACT.
Exact.
Et bon, là, vous avez un site Internet pour des gens, autrement dit, s'il y a des gens qui s'intéresseraient un peu à ce que vous faites, on pourrait aller voir votre site Internet.
Absolument. On a un site web, c'est act.lacsq.org. Mais si vous googlez Mouvement ACT, vous allez le trouver tout de suite. On a aussi, on est présent sur les médias sociaux, là, sur Facebook principalement. Donc, si vous cherchez Mouvement ACT sur Facebook, vous allez aussi nous trouver. Puis ce qui est le fun, c'est que sur nos médias sociaux, comme sur notre site web, on aime ça diffuser des actions concrètes qui sont faites, qui sont réalisées dans les établissements. Fait que vous allez pouvoir voir un peu ce qui se passe chez nos membres.
Puis comme je disais tantôt, mon émission, cette année, on va parler de liens.
Oui.
Alors, si des gens veulent créer des liens avec avec, autrement dit, parce que vous représentez un peu là, le mouvement de transition là, par votre travail. Et puis, je pense que vous avez déjà, vous autres, des liens, vous avez des partenaires là, avec vous. Là.
Oui, ben juste moi, là, on est cinq là, au bureau, là, puis juste moi, dans ma liste de partenaires, là, dans ma boîte courriel, j'ai une soixantaine de partenaires Donc, autant des organismes environnementaux, des groupes citoyens, évidemment, d'autres coalitions, par exemple, comme le Front commun pour la transition énergétique. On siège aussi à la table Ensemble pour la suite du monde, qui a organisé là, la grande manifestation du 27 septembre dernier. Donc, on se connecte le plus possible avec les milieux communautaires, sociaux, environnementaux, institutionnels. C'est quelque chose qu'on fait parce que, de toute façon, la transition, ben, comme vous l'avez mentionné, même si on réussissait à mobiliser 100% des écoles du Québec, ça sera pas suffisant. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tous les groupes, tous les citoyens, toutes les citoyennes s'y mettent. Donc, on se réseaute le plus possible pour travailler ensemble puis dans le même sens.
Il faut créer des liens, puis quelqu'un qui ça serait une porte d'entrée pour certaines personnes là, qui voudraient voir comment ils pourraient justement créer des liens communautaires autrement dit, mettre l'épaule à la roue dans la transition. On pourrait aller consulter votre site Internet puis communiquer avec vous, là.
Bien, c'est possible. C'est sûr que nous, vu qu'on est principalement dans les établissements d'éducation, c'est rare qu'on a des bénévoles de l'extérieur qui viennent s'impliquer. Par contre, si par exemple quelqu'un nous appelait puis disait « je veux m'impliquer au mouvement ACT », moi, ce que je verrais, c'est si on a des membres dans la région de la personne qui ont besoin d'un coup de main pour un projet concret. Ça peut se faire.
Okay.
Donc, si vous nous contactez, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Puis peut-être avec vos partenaires aussi, j'imagine. Je ne sais pas, là. Parce que c'est comme une porte d'entrée que je vois un peu, là, votre site Internet, là, dans la transition. Parce qu'à Québec, je ne sais pas si on a un organisme qui s'appelle la Transition Québec, là. Je ne suis pas certain.
Il y a un parti politique municipal, oui, mais sinon, moi, c'est sûr que j'aurais tendance à référer, nous, on est connecté avec la collectivité Zen de Québec.
Ah, oui, c'est vrai.
Donc, qui découle du Front commun pour la transition énergétique. Puis ça, c'en est une table, justement, où il y a, à ma connaissance aussi, des citoyens, mais il y a beaucoup de groupes de toutes sortes. Les collectivités Zen, il peut y avoir des représentants politiques, des entreprises privées, des organismes communautaires. C'est probablement une meilleure porte d'entrée pour un citoyen, une citoyenne qui souhaite s'impliquer. Mais aussi, la collectivité Zen, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cette coalition-là, il y a des organisations dans lesquelles des citoyens peuvent aussi librement s'impliquer puis travailler.
Et ça, en passant, Zen, c'est pas la religion Zen, là.
Non, c'est la philosophie Zen. C'est pour zéro émission nette.
Zéro émission nette, ouais, c'est ça. C'est un organisme qui s'intéresse à la transition énergétique, là.
Oui, exactement, mais aussi sociale. Donc, on parle beaucoup de transition juste, là, dans les collectivités Zen. Donc, on n'est pas seulement dans l'environnement.
Fait que dans le fond, c'est plutôt eux autres qui est le noyau central, disons, du mouvement de la transition à Québec, là, ça serait plus eux autres.
Bien, il y en a plusieurs, puis c'est un peu le défi, parce que là, je vois aussi qu'il y a la Ville de Québec, là, qui a son initiative pour Québec région de biosphère de l'UNESCO, qui souhaite aussi être un mouvement rassembleur, une organisation rassembleuse. Tu sais, il y a plusieurs initiatives, là, dans lesquelles c'est possible de s'impliquer comme citoyen, citoyenne. Il n'y a pas un guichet unique. Puis c'est peut-être une bonne chose. J'ai l'impression qu'éventuellement, toutes ces initiatives-là vont converger peut-être, mais qu'il y a une diversité d'approches. Il y a aussi, c'est vrai, le REPAC, qui a une coalition aussi pour la justice climatique, qui est une bonne porte d'entrée aussi citoyenne. Donc, il y a plusieurs initiatives auxquelles on peut se joindre si la transition nous intéresse. Mais oui, bien sûr, si quelqu'un nous contacte au Mouvement ACT et nous demande comment s'impliquer, on va essayer de la pister dans la bonne direction.
Ben, écoute, je merci d'être venu, là, Tommy.
Merci à vous, M. Delorme, de m'avoir reçu.
Puis on va, s'il y a du nouveau, on va vous réinviter pour venir parler de transition. Parce que c'est, comme je disais, nous autres, Saint-Pierre Volontaire, c'est plus un mouvement. Vous direz qu'il parle de mode de vie individuel, des valeurs que tu mets dans ta façon de vivre, améliorer ta vie. Mais il faut créer des liens. Puis les liens, c'est un peu ça aussi, la richesse, la vraie richesse. Là, une fois qu'on pratique la Sainte-Fille volontaire, on ouvre la porte à créer des liens. Puis ces liens-là, notamment, là, c'est par des mouvements comme ça, le mouvement de la transition. Donc, c'est bien important pour nous. Ça fait que je vais te remercier là-dessus.
Un gros merci. Puis, j'entends travailler, justement. J'ai une nouvelle école qui vient de se joindre à nous, puis ils m'ont demandé de pouvoir discuter avec moi à 11h. Fait que faut que je file déjà.
D'accord.
Vous parliez du rythme tantôt. Là, je suis dans un rythme assez effréné.
Oui, bien, c'est ça. Il faudrait que tu fasses plus de simplicité volontaire.
Peut-être. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Alors, on prend une pause musicale. Pour retour, je vais vous lire des extraits de Taureau Yogi des Bois.
Thank you.
Alors, c'était une pièce de Bach de l'ensemble Caprice, des concertos bruns de Bourgeois, l'ensemble Caprice. Et c'était, pour ceux qui s'intéressent, le concerto numéro 4, Allegro. Avant ça, on avait eu de l'accordéon, Andrea Capezzuoli, C-A-P-E-Z-Z-U-O-L-I. Le nom de la pièce, c'est Il Moro Saraceno. C'est une marche, en fin de compte. L'accordéon a souvent servi d'instrument de rassemblement, de marche, de groupe, des marches de travailleurs. Alors, c'était une pièce d'un Italien, un joueur d'accordéon italien que j'ai vu au beau festival d'accordéon l'an dernier à Montmagny. Alors voilà, on va terminer l'émission avec un extrait de Toro Yogi des Bois de Colette Poggi, P-O-G-G-I. Si vous vous intéressez à Toro, c'est un beau livre qui parle de Toro selon l'angle de la philosophie indienne de l'Inde. Colette Poggi, c'est une experte en philosophie indienne, puis elle a écrit un livre qui s'appelle Toro, Yogi des Bois. Elle fait un parallèle entre la vie de Toro et la philosophie indienne. C'est très beau. Et alors, je vais vous lire un extrait de le chapitre sur la forêt. C'est un peu un clin d'œil aussi avec ce que je vous ai lu en début d'émission, comme d'habitude, là, l'extrait de Walden où Thoreau parlait des valeurs supérieures, des valeurs plus élevées. Et pour lui, c'est le contact avec la nature qui est comme quelque chose d'intangible, mais qui est la vraie richesse de la vie. Alors, voici. Depuis son enfance, quand Thoreau se laisse aller à rêver, c'est la forêt qui surgit en lui. Cette promesse de liberté, de vie intense, d'unité avec le vivant, il la ressent comme un pacte avec l'univers. Un navigateur verra l'océan, un peintre les formes et les couleurs, un musicien les sons et les rythmes. Pour ce yogi des bois, la forêt n'est pas un en dehors, mais le tréfonds de son être. Par sa croissance et son renouveau incessant, elle éveille en lui le sentiment de l'originel. Tout a commencé dans un espace qui lui ressemble, infiniment varié, interconnecté, que seuls les sages et les poètes savent vénérer. De la terre au ciel, la forêt, symbiose de tous les éléments et son infinie sa plénitude, le ferment inépuisable de son imaginaire, elle abolit les distances et les durées. Sans se mouvoir, il atteint le Gange, converse avec les sages védiques ou taoïstes. Quittant la circonférence du temps, il approche du centre, hors du temps. Et cette capacité à s'immerger dans la vie sauvage fait de lui l'ennemi inconditionnel des Amérindiens, le confident des hulottes et des arbres sans âge. Ma réflexion vise à montrer ce que c'est par le sauvage que le monde est sauvé. Nous abritons en nous un sauvage. Ça vient d'un essai de Thoreau, son essai qui s'intitule Marcher. Un mantra l'accompagne jusqu'à son dernier souffle, Indien, Indien, qui signifie pour lui la simplicité et le naturel, la vie libre en accord avec la nature. Thoreau emploie souvent le terme wild, sauvage, qui résonne pour lui comme la vérité des bois. Mais dans quel sens entend-il ce terme? Il est évident qu'il ne cherche aucunement à effacer la présence des Amérindiens. Pendant de nombreuses années, il aura en effet consacré une étude ethnologique à sa manière de plus de 2000 pages, non intégralement publiée à ce jour. Cependant, comme le remarque à juste titre Estelle Zong Mengual dans son essai « Apprendre à voir », la notion de « wilderness » mérite d'être révisité. Elle cite à propos l'historien environnemental William Cronon. La wilderness est cette construction mythique étrange selon laquelle les terres américaines, avant la colonisation par les pionniers, étaient des terres vierges, intactes, inhabitées, non travaillées. C'est à contribuer à effacer les Amérindiens comme habitants de ces territoire et présenter ces terres comme disponibles et ainsi légitimement appropriables. Une telle pensée est diamétralement opposée à l'approche de Thoreau. Certainement le premier à s'intéresser d'aussi près au mode de vie des Indiens en harmonie parfaite avec la nature. Au cours de ses pérégrinations, il est à l'affût de pointes de flèches dormant sous la terre. Lorsqu'il laboure son champ, il perçoit la présence de cendres issues de leur feu, mêlées aux mottes qu'il soulève. Pour ce yogi insolite, vivre en forêt, c'est en rien synonyme de mortification, c'est tout le contraire. Cela signifie partir à la rencontre de la vérité, ou plutôt des vérités plurielles, celles du vivant, de la faune et de la flore, du minéral, du cosmos, mais surtout de soi-même. Il s'agit d'un épanouissement de cette part cachée de l'être, toujours enfouie sous les couches multiples et, hélas, inconscientes des conventions. Alors, c'est une lecture, un extrait de Thoreau, Yogi des Bois, de Colette Poggi, P-O-G-G-I. Alors, je vous rappelle, encore une fois, là, le cercle de discussion lundi soir prochain au Centre Frédéric Bach, salle Michel Jourdan. C'est sur le revenu de base. Et jeudi prochain, Café Philo au Café Librairie Le Mot de Tasse, toujours à 19h. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique. Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des ressources qui leur permettent de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputedeguerre.ca.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 8 novembre 2024. Dans un mémoire déposé cette semaine, la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, fait part de ses vives préoccupations quant au risque que poserait l'adoption du projet de loi 74 relatif aux étudiants étrangers. D'une part, la CSQ constate que dans la dernière décennie, ce sont les universités francophones qui connaissent la plus forte croissance des effectifs d'étudiants internationaux. D'autre part, elle rappelle que la contribution des étudiantes et étudiants internationaux n'est pas que financière ou économique. Leur présence en région est un facteur d'enrichissement, notamment pour les milieux culturels et communautaires. La CSQ recommande de suspendre le projet de loi 74 et de mettre en place des mesures soutenant le recrutement international de provenance francophone. Deux nouvelles installations du Centre de la petite enfance Mabel Grenouille ont été inaugurées hier dans l'arrondissement Haut-Saint-Charles de la Ville de Québec. Ainsi, 80 nouvelles places dans chacune de ces installations, dont 15 places pour les enfants de moins de 18 mois.